Alors Dominique Lurcel, pour une saison de Machette, d'après une adaptation, une mise en scène donc du texte de John Hatzfeld, journaliste à Libération. Il est vrai que c'est un texte qui donne la parole au bourreau. Vous aviez monté N'être coupable, N'être victime également au sujet de la Seconde Guerre mondiale et notamment des tortionnaires nazis. Vous étiez également placé du côté des tortionnaires. Pourquoi ce choix ici, puisque Hatzfeld a aussi écrit un ouvrage qui a recueilli, comme vous le dites très bien, les paroles et les récits des victimes qui sont les grandes oubliées quelques 17 ans après ce génocide?
Oui, la question génocidaire me travaille depuis très très longtemps. J'avais aussi mis en scène dans Le Ligne en 95 des conversations avec Primo Levi. Et bien évidemment, je me disais, bon, dans ce domaine, j'ai assez donné. Et puis, j'ai été happé complètement par le livre de Hatzfeld quand je l'ai lu en 2003. D'une part, parce que c'était la première fois, en effet, qu'on avait les paroles de braves gens, de braves tueurs ordinaires. Il n'y a aucun précédent dans aucun autre génocide. Et ensuite, par la déconnexion avec laquelle ils avaient transmis ces actes extraordinaires dans un langage complètement ordinaire, quotidien et décontracté. Et ça, je me suis dit, il faut faire entendre ça. Autant les spectacles qui mettent en scène des paroles de rescapés bouleversent, moi je voulais questionner. Voilà, je voulais que les gens sortent avec des tas d'interrogations dans la tête sur les mécanismes génocidaires, sur les comportements humains, sur ce dont nous sommes tous capables. Voilà, certainement.
Alors, ce qui ressort également de Primo Levi et d'Anna Arendt, qui sont cités par Hatzfeld dans ce texte et repris dans votre spectacle, c'est vraiment la continuité dans un être entre ses activités quotidiennes et les activités qui mettent en question, qui vont chercher l'inhumain, en fait, jusque dans l'humain. Et cette continuité, vous y avez beaucoup insisté dans cette pièce, c'est-à-dire, par exemple, c'est le même geste qui va couper la canne, qui va couper les cultures et qui en même temps va couper avec d'autres modalités peut-être pour d'autres efficacités les corps. Qu'est-ce qui vous a frappé justement dans le fait que ce basculement se fait presque de manière naturelle?
Mais vous citez Primo Levi, je crois que vous avez raison. Ce qu'il y a de commun dans les deux cas et dans, je crois, tous les cas de massacres de masse ou d'appelés français qui ont été appelés à torturer en Algérie sans le vouloir. J'ai encore rencontré hier en Avignon un vieux monsieur de 73 ans qui a vu le spectacle, qui s'est mis à me raconter sa guerre d'Algérie. C'était, voilà, en relation avec ce qu'il avait vu. C'est cette fameuse zone grise dont parle Primo Levi, qui fait qu'on n'est ni bon ni méchant, mais que dans un cadre donné, quand une manipulation s'est mise en place en douceur, que la peur s'installe, que le profit est là, profit personnel, c'est une dimension non négligeable, mais on y va. J'ai dit on y va, je pense qu'on y va tous. Voilà. Ou alors il faut une structure morale très très forte, une prise de conscience de tous ces phénomènes, c'est aussi pour ça que évidemment on fait entendre ces textes. C'est cette zone grise-là, voilà, qui est une sorte de nos consciences land, enfin je sais pas comment appeler ça, et qui nous concerne tous, voilà. Oui, oui.
Alors au départ, il y a une cohabitation qui a déjà été bien mise à mal suite notamment à l'effet un petit peu embrayeur voire facilitateur de la colonisation et de la décolonisation en 59, les premiers massacres, enfin comme il est cité en tout cas dans le livre d'Hatzfeld. Par rapport à cette cohabitation, à un certain moment donné, elle apparaît comme plus possible, c'est-à-dire ceux qui étaient des cancrelats deviennent des serpents lorsqu'on les exécute. Qu'est-ce qui fait justement que, selon vous, comment vous l'avez approché justement, ce fait qu'à un moment donné on en vient à vouloir désherber?
Alors, débroussailler, hein, c'est voilà, le mot qu'ils emploient. Nous, on a dit carchériser il n'y a pas très longtemps chez nous. Hein. C'est vrai, je pense que ce sont les mêmes effets, en tout cas, très très malsains de mots lancés comme ça, qui restent dans les têtes, qui font que, bon, qu'il faut être très vigilant. Là, ce qui s'est passé au Rwanda, c'est qu'en effet, il y avait menace extérieure, puisqu'il y avait l'armée des Tutsis de l'extérieur qui revenait. Et donc ça a facilité énormément ce génocide, c'est-à-dire que le déclenchement, mais tout était en place, mais c'est vrai qu'on fait entendre dans ce travail que ça s'est mis en place dès 59, des premiers massacres impunis, des choses dont on parle au cabaret, des choses qui s'installent et qui créent le terrain, qui, voilà. Et puis à un moment donné ça bascule, parce que alors là je crois que c'est la peur qui fait que peur réelle ou peur fabriquée, évidemment, hein.
Alors justement, ce qu'on coupe aussi, ce sont les idées, d'une certaine manière. C'est dit de manière tout à fait pertinente à la fin de ce récit, et notamment par rapport à la reconnaissance ou non du génocide, qui a été notamment un cas de controverse internationale, puisque je crois que c'est François Mitterrand qui a utilisé le premier le terme « les génocides », donc le pluriel Hutu, Tutsi, et puis après ça a été repris notamment par Dominique de Villepin. C'est une manière aussi, comme Primo Levi ou d'autres le disaient très bien, de réduire la singularité même, dans un cas de la Shoah, dans l'autre de ce génocide. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette peine à nommer, et d'autre part de ces génocides pluriels?
Mais bon, le génocide Tutsi a été reconnu par l'ONU dès septembre 1994, c'était clair. Et c'est vrai que Mitterrand, là, a semé quand même le trouble. En mettant à égalité des massacres, car il y a eu évidemment des massacres de Hutu par les Tutsis, notamment au moment où justement les Tutsis Kagame est arrivé au pouvoir, c'est évident. Mais ça n'était en rien un génocide. Là, je crois que la responsabilité de la France, la mauvaise conscience de la France au Rwanda, s'est traduite comme ça. Et on a troublé le jeu. Enfin, voilà, on a faussé les cartes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en effet. Il y a des gens qui, moi je vois dans les rues d'Avignon, qui nous disent « mais de toute façon, tout ça c'est égal et tout si on en fait autant ». Et non, pas du tout. Mais là aussi, ça laisse des traces. Voilà.
Qu'est-ce qui pour vous distingue ce type de témoignage de ce qui a été présenté par le groupe OFF, notamment Rwanda 94? Alors c'est vrai qu'il y avait l'ouverture, ce récit de 45 minutes de Yolande Kagame, rescapée. On peut s'imaginer peut-être qu'avec la ressouvenance, puisque si on l'a vu à plusieurs reprises, on voit qu'elle est prise d'émotion à un certain moment donné, mais ce spectacle a été tourné partout. Il a aussi été controversé de par les sources qui ont été utilisées. Qu'est-ce que vous pensez de cette expérience d'Écuvelière et de celle de Hartsfield?
Qu'est-ce qui les distingue?
Bah, essentiellement, le lieu d'où ça part, c'est-à-dire que ici, on a des paroles de rescapés et là, des paroles de tueurs. Donc, autant on peut être bouleversé par Rwanda 94, il ne s'agit pas d'être bouleversé ici, il s'agit d'être questionné. Voilà. Et donc, de renvoyer un questionnement sur l'humain. Moi, c'est ça qui m'intéressait. De toute façon, je me méfie. Non, j'ai beaucoup trouvé très, très, très passionnant le Rwanda 94. Et en même temps, moi, je me méfie toujours de ces spectacles où, d'une certaine façon, le spectateur n'a pas le choix. Il est forcément bouleversé. C'est pour ça que j'avais monté des conversations avec Primo Levi, et pas si c'est un homme, parce que dans une conversation, on peut s'engouffrer, on peut choisir, on peut être le troisième débatteur, et il y a une sorte de liberté du spectateur que j'aime bien respecter.
Alors justement, ces conversations juste avec Primo Levi, dont ce travail, vous le dites, est la continuation, Primo Levi a reconnu avoir eu une position relativement privilégié dans les camps, c'est-à-dire qu'il était médecin. De par sa position, il avait également la possibilité de réfléchir à ce qu'il voyait, d'avoir un recul, ce qui est aussi le cas de Hatzfeld, mais d'une toute autre manière, avec toute autre modalité. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce qu'a retiré peut-être Primo Levi dans ces conversations que vous avez montées de, si je peux appeler ça, de son expérience des camps, et ce qu'a retiré Hatzfeld par rapport au...
Il y a un point commun qui me semble évident entre tous les deux. Dans les conversations, Primo Levi dit à Camon qu'il n'a pas du tout envie, évidemment, de retourner à Auschwitz, mais que Auschwitz, et je cite, a été sa véritable université. Que c'est là qu'il y a appris ce qu'étaient les hommes, et le pire et le meilleur. Et moi, je suis persuadé, j'ai rencontré Hatzfeld plusieurs fois, que Hatzfeld a trouvé au Rwanda sa véritable université. C'est-à-dire que là, il fait le même chemin que Primo Levi auprès des Rwandais, entre rescapés et tueur, c'est une quête sans fin de questionnement de l'humain. Voilà.
Alors juste au sujet de l'organisation de ce génocide, vous citez notamment le journal de l'ancien commandant d'Auschwitz, Rudolf Hess, qui a été très souvent monté, qui montre justement Rudolf Hess assez naturel en disant, ben voilà, même si il s'est avéré que les camps de concentration n'avaient pas une utilité économique très reconnue, mais il se trouve que tout était très bien organisé, tout était très bien planifié, il y avait un souci du détail. Là, je crois que aussi dans l'exécution, il y a quelque part aussi un souci du détail.
Et oui, il y a un souci du détail. C'est une organisation redoutable, ce génocide. Quand on pense que rien que sur les collines là, de trois villages, en 5 semaines, il y avait 59 000 Tutsis vivants. Au bout de 5 semaines, il n'y en a plus que 9 000. Donc une efficacité. Mais je crois qu'il vient aussi du fait du massacre de proximité, du massacre à la machette, qui fait qu'on tue son voisin et que tout le monde s'y met. Donc c'est redoutable. Toute la machine nazie n'est pas arrivée en 3 ans à un résultat pareil. Voilà, je veux dire que c'est tout à fait hallucinant quand on y pense. Et en effet, c'était préparé, organisé. Ça a pris feu en 3 jours dans tout le Rwanda. Mmh. Mais les machettes étaient distribuées depuis 6 mois.
Alors vous citiez également S21 de Riti Pan. Riti Pan s'était beaucoup insurgé, notamment en préparant son film, contre la captation de la mémoire et son instrumentalisation. On sait qu'à la libération, entre guillemets, oui, libération au Cambodge, c'est-à-dire l'invasion vietnamienne, il y a eu toute une muséologie de l'horreur cambodgienne, notamment qui s'est tenue et qui a été organisée par des scénographes et des curateurs, si j'ose dire, venus d'Allemagne de l'Est, et qui se tenait notamment à l'ancien lycée de Tuol Sleng, où on avait beaucoup torturé et beaucoup épuré à l'intérieur même des rangs Khmer Rouge. Qu'est-ce qu'il en est justement de ces risques par rapport à cette transmission d'une parole, d'une espèce d'instrumentalisation de cette parole, ou tout du moins, la mémoire, disait un célèbre historien, Paul Venn, c'est aussi l'oubli. Comment est-ce on se situe? Parce que Riti Pan parlait vraiment de la distance juste. Dans son film, notamment, il fait rejouer à d'anciens tortionnaires la chorégraphie, si j'ose dire, entre guillemets, de leur mouvement, séquence extraordinaire. Comment est-ce qu'on arrive à ressusciter ces paroles en l'absence même des personnes qui l'ont prononcée? Quelle distance? Peut-être vous n'avez pas de réponse, mais en tout cas, quelles questions vous êtes posées justement par rapport à cette transmission de, non pas de l'indicible, mais...
Ah oui, la question s'est évidemment posée, puisque l'essentiel était de ne pas jouer coupable, donc de ne pas jouer tragique, de ne pas jouer dans le pathos. Oui, on nous a obligés à faire ça, etc. Voilà, et dans le spectaculaire. Donc, c'est vrai que tout le travail a consisté à trouver la distance juste entre non pas une désincarnation totale, parce qu'on serait tombé encore dans un autre formalisme, et pas une incarnation totale non plus. Et ça, je trouve que les comédiens ont complètement compris ça collectivement. Et hier encore, il y avait un comédien qui est sur Avignon, là, qui revenait du Rwanda où il a tourné dans un film pendant 6 semaines. Et il nous a dit, c'est extraordinaire. Ça a un écho pour moi incroyable par rapport à cette façon que les Rwandais ont de raconter, voilà, en étant impliqués et pas impliqués à la fois. Donc ça, c'était en effet essentiel. C'est vrai que moi je me méfie aussi beaucoup de toute instrumentalisation. Les guerres de mémoire sont légion. C'est vrai que j'ai essayé de rester en dehors de ça. Voilà, en dehors de ça. Il ne s'agit pas en effet d'ailleurs de dire les Tutsis sont gentils et les Hutus sont méchants. Enfin, voilà, il n'y a pas d'angélisme. Ce qu'on interroge là, c'est l'humain et ses mécanismes. Et ses pulsions et ses sombres, ses arcanes.
Deux dernières petites choses. Vous parlez de l'insupportable proximité de ces paroles. En même temps, cette proximité, vous la renforcez tout en la distanciant. Il y a un double mouvement, à mon sens, c'est lorsque vous faites partir ces paroles du public. Parce qu'en même temps, ces personnes font partie du tissu du public, mais en même temps, elles arrivent à créer suffisamment de distance pour qu'on soit... Et on est d'ailleurs dans le récit d'une sorte de prologue où on pose...
On entre, puisqu'ils ne sont pas encore allés dans les marais. Ouais. C'est vrai que c'est une sorte de prologue. C'est le prologue d'Hatzfeld, là, j'ai conservé entièrement. Et c'est vrai que leur entrée sur le plateau correspond à leur entrée dans les marécages, voilà, au moment où on y va. Voilà, il y a quelqu'un hier qui a dit la fleur à la machette. c'est une expression que je trouve assez juste. Et donc voilà, je peux même pas dire le théâtre commence, parce que je crois que c'est du théâtre, mais il y a des gens qui me disent oui c'est du théâtre pur, d'autres qui disent non c'est pas du théâtre mais ça n'a pas d'importance. Enfin voilà, disons que l'image fonctionne à partir de là et le groupe aussi fonctionne à partir de là, puisque quand même on a tué en masse, on a tué en groupe. On était des copains avant, on est restés des copains pendant les tueries, on est restés copains pendant les prisons, en prison. Et l'angoisse quand même naît sur la fin, parce que là, on va se retrouver seul sur les parcelles, seul face aux rescapés, parce que la libération approche.
Voilà. Alors c'est ce qui est dit dans le texte, qui est très beau d'ailleurs, c'est que individuellement parlant, les gens n'arrivent pas à parler et se sentent d'une certaine manière agressés, devoir rendre des comptes, alors qu'en les prenant en groupe, peut-être dans les interrogatoires, ou j'ai pas tout perçu par rapport à ça, il est beaucoup plus facile de les pénétrer. Et cette idée, vous l'avez en quelque sorte prolongée, je dirais pas redoublée, parce que c'est pas mimétique, mais notamment en plaçant ces quatre récitants, ces quatre voix, contre un mur en pisé, comme ça, déchiré par une brisure, une fêlure. Ce côté de corps conteur ou de choralité, vous l'aviez vraiment ressenti dans le texte de la scène ?
En tout cas, j'ai ressenti la nécessité absolue de transmettre comme ça, c'est-à-dire des corps un peu mous, des corps pas de gestes, parce que tout geste, comme ceux que je suis en train de faire en ce moment, essaie toujours de convaincre, de transmettre. Eux n'ont rien à transmettre et rien à convaincre, rien à défendre non plus. Donc il y a cette sorte d'un peu de, pas de mollesse, mais d'état, voilà, dans une sorte de bulle collective dans laquelle ils se trouvent, un peu hors temps, hors espace, dans laquelle ils se trouvaient quand ils étaient en prison, quand Hetzfeld les a rencontrés en fait.
Qu'est-ce qu'il en est très exactement 17 ans après les événements, à votre connaissance, au Rwanda ? Est-ce qu'il existe encore des liens, qu'en est-il des procès, enfin à votre connaissance ?
En tout cas, par rapport à mes cultivateurs, ils sont retournés sur les parcelles et Hetzfeld publie dans quelques semaines un nouveau volume qui s'appelle « La stratégie des antilopes » qu'il m'a envoyé il y a 15 jours, dont je vais faire la lecture de quelques passages ici dans les rencontres du Petit Louvre. C'est hallucinant ce qui se passe entre les rescapés et les tueurs. Entre mémoire et oubli, faux pardon, vrai pardon, qu'est-ce qu'on peut se dire, qu'est-ce qu'on doit se dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas se dire, qu'est-ce qui reste dans les têtes. C'est un sac de nœuds. Alors avec la vérité officielle, en effet, les gachachas, les tribunaux populaires, mais qui sont finalement encore une forme de théâtre, qui sont quelque chose de très organisé ou très codé. On a le droit de dire des choses et pas d'autres. Et donc le fond de l'individu reste très, très, très questionnant, très mystérieux, et une peur terrible de part et d'autre.
Juste une dernière chose, peut-être que vous allez adapter et monter ce silence des antilopes, mais en tout cas, par rapport à ça, ce que je voulais vous demander sur la question du pardon, puisqu'il en est très longuement question dans la pièce, et notamment cette phrase terrible qui dit en substance « je ne pourrai pardonner qu'à la personne que j'ai exécutée, d'une certaine manière, qu'à l'enfant que j'ai oxyé ». Alors, par rapport à cette adaptation du silence des antilopes, puis ce thème du pardon.
En tout cas, ce que vous dites m'amuse, parce que c'est vrai que c'était ma première réaction en le lisant. Je me suis dit, oulala, j'ai envie d'une suite. Mais ça, c'est parce que dès qu'on plonge dans cet univers-là, il y a une sorte de questionnement sans fond, sans fin, quoi. Voilà. Je ne sais pas si je le ferai, mais ça a été ma première réaction. Sur le pardon, ça reste très mystérieux. Parce qu'ils disent des choses qui sont très, très naïves et en même temps pleines de menaces aussi. C'est comme si... Si je dis pardon, ben, je dois être pardonné. Si je ne suis pas pardonné, tant pis pour eux. Et il y a quelque chose d'angoissant dans tout ça, je trouve. Et puis Dieu, qui est le seul à pouvoir pardonner. Oui, j'ai pas de réponse. C'est oui, oui. Et là, dans le troisième livre de Hetzfeld, le développement sur le pardon est là aussi et sans fin. Quoi. Voilà, sans fin.
Puis, ultime chose, vous avez choisi donc un contrebassiste. Il y a une manière de faire corps aussi avec son instrument, de jouer avec les parties en bois. À quoi ça correspondait d'amener des respirations? J'ai vu peut-être ces machettes, enfin en tout cas d'autres extrêmes montés différemment, où c'était d'un seul trait, 2 heures, sans respiration aucune. Pourquoi vous, ce décrochage, mais en tout cas cette manière de tamiser la parole?
Alors il y a eu d'abord une rencontre avec ce musicien. Ma compagnie était en résidence dans une ville d'Île-de-France et il était aussi en résidence. Et j'ai souhaité qu'on se rencontre là-dessus. On avait déjà fait des choses en commun, des petites interventions. Et la voix de la contrebasse s'est imposée pour moi. Cette voix chaude, humaine, enfin humaine, quoi. Voilà, au milieu de ces paroles étranges, en contrepoint. Alors c'est vrai que ça a un effet très bizarre sur les gens, parce qu'il y a des gens pour qui c'est une belle respiration, dans laquelle ils peuvent enfin se laisser aller. Pour d'autres, c'est un poids supplémentaire. C'est très très curieux. Alors là, la perception, elle est très très ambivalente. Et j'aime bien que ça soit les deux, finalement.
Dominique Lurcel, merci beaucoup.